Ton mode de fonctionnement et ta relation à l'argent déterminent l'entrepreneur que tu vas être et le chemin que tu dois faire pour devenir l'entrepreneur que tu veux être. Dans cet épisode, nous allons parler de la relation à l'argent, de l'introversion, de notre caractère, de nos aspirations et de plein d'éléments qui viennent jouer dans notre manière d'être entrepreneur. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur. Bah oui, le podcast a changé de nom, ça s'appelle désormais Solopreneur. Je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi après. Mais si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous l'avez compris, vous l'avez deviné un petit peu que ça me tiraillait un petit peu dans ma tête tout ça. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, j'ai 47 ans. À l'approche de la quarantaine, j'étais un salarié obèse, déprimé, harcelé, malheureux. Et pourtant, j'avais suivi la voie toute tracée, vous savez, celle qu'il faut suivre absolument. Bac, études, boulot. Sauf que moi, j'en suis sorti rincé, dégoûté. Et j'ai mis des années à m'en remettre. Et en fait, pour m'évader de ma roue de hamster, j'ai décidé de devenir entrepreneur, de créer du contenu, des podcasts. Et depuis, j'ai créé ma nouvelle vie de solopreneur, podcasteur, de coach. Je n'ai jamais été aussi libre et heureux, mais ça n'a pas été facile pour arriver à ce stade-là. Et ce que je vais vous aider à faire avec mon podcast, mes contenus, c'est justement de vous partager mon expérience, de rencontrer aussi des personnes qui nous inspirent, qui partagent leurs conseils, et puis de creuser des sujets comme le marketing, l'entrepreneuriat, l'organisation, l'état d'esprit, la forme aussi, parce que c'est très important. Et si vous suivez ce que je fais dans d'autres podcasts, vous savez à quel point c'est important pour moi, notamment tout ce qui est l'énergie pour être entrepreneur. Et dans ce podcast, donc le but, c'est d'aborder les meilleures stratégies pour construire le business et la vie de tes rêves. Voilà. Alors, comme je le disais, j'ai changé le nom du podcast. Alors, j'ai pas tout changé, j'ai pas refait toute la peinture avec les musiques, etc. Mais par contre, j'ai changé le nom du podcast. J'ai pris cette décision hier, j'ai changé la vignette, j'ai changé le descriptif. Je pense que ce nom de solopreneur correspond finalement plus à l'esprit dans lequel je suis. Parce que, cheveux blancs et des longues, c'était assez drôle, le jeu de mots. Ça avait un sens pour moi, mais c'était peut-être un petit peu restrictif, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire me positionner sur, finalement, plus de 40 ans, etc. Voilà, je crois que ça fait partie, en fait, de mes lubies de mon cerveau, qui étaient parties dans un sens. Et je me demande, en fait, si c'était vraiment le bon sens. Donc, maintenant, j'ai décidé que le podcast s'appelait Solopreneur, le Solopreneur Podcast, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il s'appelle Solopreneur, tout simplement, dans lequel je vais continuer à partager, en fait, à la fois des réflexions et aussi mon carnet de bord, le carnet de solopreneur, carnet de coach, c'est-à-dire sur quoi j'ai réfléchi, sur quoi j'ai travaillé, comment j'avance, etc., faire des bilans réguliers. Donc là, maintenant, je te laisse me dire ce que toi, tu en penses, j'en avais un petit peu parlé la dernière fois, sur le terme solopreneur, sur le thème de slowpreneur aussi, c'est-à-dire le mode de vie dans lequel je suis. Le but, je le répète, pour moi, c'est pas de dire qu'il y a une meilleure façon qu'une autre, qu'il y a des gens qui veulent avoir des grosses sociétés, des grosses entreprises, avoir beaucoup de salariés, qui veulent construire même des licornes, etc. J'ai eu une discussion sur Fred hier, je crois, en disant que oui, il fut une époque, moi par exemple, j'ai connu le crash des valeurs internet 2001, vous voyez, dans cette zone-là. Et avant, je lisais beaucoup de bouquins sur il fallait construire des startups, il fallait lever des fonds, le brick and mortar, etc. J'ai des bouquins complets sur cette forme de business. Et j'en suis tellement loin désormais, tellement loin désormais. Mais pendant des années, en fait, ma formation, le modèle qui était véhiculé et tout, m'a amené vers ça. Et je me suis juste rendu compte que ça ne me convenait pas. Et en fait, ça m'amène au sujet d'aujourd'hui. C'est que tout ce que nous faisons est relié finalement à, j'ai envie de dire, un mode de fonctionnement global qui repose sur nos peurs, nos aspirations, notre vision du monde. Un mode de fonctionnement spécifique dans notre relation aux autres, et là je parle de l'introversion et de l'extraversion, notre relation à l'argent aussi. Et en fait, tous ces points sont liés entre eux, bien entendu. Alors je vais pas les détailler, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à détailler chacun de ces points, mais en fait, ce que je voudrais t'inviter à faire surtout, c'est de réfléchir, de finalement te poser des questions sur ces points, sur comment toi ça t'impacte personnellement dans le contenu que tu veux créer, le solo business que tu veux créer, la relation que tu vas avoir avec des clients, avec tes clients, avec des gens qui sont des prospects aussi, puis avec ton environnement, des gens qui peuvent être des partenaires par exemple, de ce que tu attends de toi et des autres. Et c'est lié, hein. Les deux sont très, très 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 liés parce que souvent ce que tu attends des autres peut venir aussi de ce que tu attends de toi ou tu attends de toi certaines choses très particulières et tu ne comprends pas pourquoi les autres ne le font pas. Et voilà, ou tu attends que les autres viennent nourrir certaines choses en toi. Enfin, ouais, y a beaucoup de choses là-dedans. Et pourquoi tu veux ou non gagner de l'argent? Ça c'est un dernier point, je pense que c'est une grande question qu'on doit se poser. Et je vais te donner quelques exemples parce qu'en fait j'en ai croisé plein des gens. On a tous un mode de fonctionnement et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait. C'est juste qu'il faut s'adapter, qu'il faut se comprendre. Il y a quelques années par exemple, j'ai discuté avec une personne qui crée du contenu, en plus de son travail, donc qui est salarié, qui crée du contenu, genre type podcast, vidéo, blog, quand même, un petit peu tout essayé, et certains trucs peuvent avoir du succès, on pourrait dire, et qui m'a dit, moi, il faut que ça me rapporte de l'argent, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, lui, il est vraiment drivé sur l'argent. Alors, il n'y a aucun jugement, en fait, sur le fait qu'il soit drivé par l'argent, c'est-à-dire que ça, c'est son mode de fonctionnement. Son histoire personnelle, son histoire de famille, ses envies, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Mais en fait, ça signifie que quand il regarde ce qu'il crée, le critère de jugement de réussite de son projet, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il a envie de faire, de s'il doit continuer ou pas, de s'il doit se lancer dans un projet, c'est systématiquement sur l'argent. Est-ce que c'est relié à l'argent? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'un projet qu'il lance finit par être par gagner de l'argent ou pas? Est-ce qu'il y a une chance de gagner de l'argent avec ce qu'il va lancer? Par exemple, est-ce que il juge par exemple qu'un podcast peut rapporter de l'argent? Si ça ne rapporte pas d'argent, pourquoi il lancerait un podcast? Donc c'est vraiment cette relation-là hein, qui est très particulière et qui est très spécifique à cette personne-là, mais en fait, c'est son mode de fonctionnement. On avait discuté, par exemple, à un moment donné, de dire, tiens, on pourrait lancer une formation. Eh bien, le critère de choix, c'est de dire, oui, mais est-ce que ça va me rapporter suffisamment d'argent? Et surtout, est-ce que ça va me rapporter suffisamment d'argent par rapport au temps que je vais y passer et par rapport à l'argent que je gagne dans mon emploi de salarié? Et quand je regarde un peu les évolutions de cette personne-là en particulier, je constate que il va systématiquement là où ça gagne plus d'argent, c'est-à-dire notamment de travailler beaucoup 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 d'heures et beaucoup moins là où il y avait d'autres choses à apporter et qui pourtant, il le dit, ça l'intéresse, ça le nourrit, il est heureux de partager ça et même des projets qu'il a arrêtés comme ça. Voilà, c'est une réalité, mais c'est son mode de fonctionnement et on n'a pas à le juger en fait. Il y a juste à le comprendre. C'est-à-dire que si cette personne-là voulait devenir un jour travailleur indépendant, solopreneur, créateur de contenu à temps plein, il y a un moment donné, il y aurait cette question-là, ce petit shift à faire en fait, cette question à se poser sur se dire, finalement, comment je bascule d'une activité à l'autre. J'ai aussi, par exemple, déjà vu en coaching par le passé des personnes qui veulent avant tout partager et contribuer au monde. Alors moi, je me reconnais très bien dans ce format-là, en fait. J'avais souvent parlé récemment, et puis dans les épisodes précédents, de cet aspect, ce que j'appelle le côté créateur et le côté entrepreneur. Souvent, on a un côté qui est plus fort que l'autre. Il y a des gens qui sont plus entrepreneurs, des gens qui sont plus créateurs. Ça, c'est bien de le savoir, de mesurer, sachant qu'en fait, les deux sont importants. Tu dois avoir les deux, hein, quelque part. Et en fait, ces personnes-là, le point commun, c'est que souvent, ils se sont formés. Ils ont eu des expériences difficiles, ils ont eu des prises de conscience, alors ils sont formés pour passer le cap, et puis ils ont creusé le truc et ils se forment de plus en plus. Et en fait, souvent, ils viennent à la création de contenu pour proposer des choses qui vont aider les gens, en fait, qui vont aider des personnes qui ont les mêmes expériences. Et pour ça, je dis, je me reconnais extrêmement bien là-dedans, en fait, hein, avec mes podcasts, avec mon blog à une époque, avec tout ce que j'ai fait par le passé, je me reconnais vraiment là-dedans. Alors, ils vont bien proposer des programmes en ligne, des formations, mais souvent, en fait, ils veulent tellement contribuer au monde qu'ils vont le faire gratuitement, beaucoup de choses, ou alors vraiment pas cher. Je vois des entrepreneurs, même assez, qui sont assez gros, qui ont du chiffre d'affaires, qui sont assez connus et tout, proposer par exemple pour 25€ des choses où il y a des lignes magnètes, enfin des choses qui, pas des lignes magnètes justement, des trucs qui sont très volumineux, ou alors des lignes magnètes gratuites, ou alors des petites formations de, par exemple de à 25-30€, mais qui comprennent 10-15 vidéos, qui comprennent tout un tas de PDF avec 50 ou 60 pages, etc. Et des choses que normalement on trouvait dans du truc beaucoup plus volumineux, hein, beaucoup plus volumineux. Et moi j'ai un exemple très bien qui va chez moi, c'est par exemple j'ai sorti un lead magnet avec 50 recettes de cuisine, et moi je le donne gratuitement quand je vois des personnes qui par exemple qui font des lead magnets où il y a 10 recettes de cuisine et puis ils vendent le truc à 50 recettes de cuisine, ils vont le vendre 30€. Voilà, ça fait partie partie un petit peu de mon mode de fonctionnement. Moi, je suis vraiment là-dedans. Par exemple, quand j'ai créé votre coach web, donc la première version de ce podcast, ben en fait, je ne vendais rien. Je n'avais rien à vendre. Hein. Je disais pas que j'avais du coaching, parce que j'en faisais pas. J'ai pas de formation en ligne. Je faisais du freelancing, mais j'en parlais pas et tout. Donc finalement, je n'avais rien à vendre. J'étais vraiment sur le partage. Sauf que à un moment donné, ce format, je le connais très bien, parce qu'on se retrouve coincé à un moment donné quand on est que dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve coincé sur le plan financier. En fait, ce qui se passe avec les personnes que j'ai eues dans ce cadre-là et que je connais bien, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un stade où, à un moment donné, en fait, on partage, on crée des choses, on passe du temps dessus, mais on ne gagne pas assez d'argent pour en vivre de ce qu'on produit. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elles doivent continuer soit travailler et garder leur boulot qu'elles ont à l'origine et ne pas arriver à basculer, en fait, ou alors elles sont entrepreneurs mais doivent reprendre un boulot pour continuer finalement à créer quelque chose qui les nourrit, qui finalement est important pour elles, mais ce qui n'est pas satisfaisant parce que, eh ben, elles disent, oui, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas de travailler pour ce patron dans ce boulot qui m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de faire ce qui m'intéresse vraiment, d'aider plus de gens et tout. Et elles doivent comprendre, en fait, que, ben, ça leur demande de changer un poil leur vision sur pourquoi elles doivent vendre les choses, leur valeur personnelle, la valeur de leur expérience, de ce qu'elles ont appris, comment le partager et tout, et de pourquoi c'est important aussi de demander de l'argent et de demander suffisamment d'argent. Et donc ça apporte des modèles un petit peu différents. Mais c'est une manière en fait. Une fois qu'on le sait, eh ben on va créer des choses un petit peu différemment. Puis j'ai d'autres personnes par exemple qui ont besoin d'une sécurité très importante sur le plan financier. Et qui sont dans la peur de manquer d'argent en fait, et peur de perdre leur appartement, de se retrouver à la rue, enfin tous ces trucs là en fait, qui là encore hein, c'est des comportements qui sont inscrits depuis très longtemps en nous hein. Et en fait ils sont pas forcément dans le truc je veux mon projet, on rapporte de l'argent rapidement, sinon je me lance pas dedans et tout. On n'est pas dans le même profil que le premier, mais en fait elles aimeraient bien par exemple avoir un mode de vie plus sympa que le leur, c'est-à-dire qu'elles voudraient être digital nomade, faire le tour du monde, ou alors changer de vie, c'est-à-dire partir d'une grande ville comme Paris, aller s'installer à la campagne pour, par exemple, être plus au contact de la nature, faire de nouvelles activités, avoir ce truc-là. Et en fait, entreprendre va leur demander de trouver, quelque part, se dire, si j'ai peur de manquer d'argent, si j'ai peur de tout perdre et tout parce que je ne gagne pas assez d'argent, eh ben ça veut dire qu'à un moment il va falloir trouver les matelas, les assurances hein, en soi ou autour de nous pour se rassurer, hein, pour ne pas se placer dans un stress tellement important que finalement il nous fige en disant waouh ouais, punaise mais si j'arrive pas à faire ça et tout je vais pouvoir pas le faire et tout. Mais en fait il faut aussi trouver ce matelas pour oser faire le premier pas. Donc quand on sait qu'on est dans cette logique là il y a un moment donné de se dire, bah oui, je vais me constituer mon petit matelas, je vais faire ça, j'aurai tant de temps, je sais que je peux rebondir comme ça, je peux faire ça. Et donc, il va y avoir tout un calcul, toute une démarche pour arriver finalement à se mettre dans une condition de confort qui permet de se dire, je peux me lancer dans ce que je veux, je peux me lancer dans ce projet-là, mais je sais aussi que je peux me rattraper, que j'ai quelque chose qui me permet de me rattraper. Ça, c'est un élément qui est important. Et puis, je dois le dire, c'est que là, j'ai pris 3 cas, mais en fait, on pourrait, par rapport à tout ce que j'ai dit là sur les 5 points finalement hein, de tout ça, ben en fait on peut les cumuler tous entre eux. C'est-à-dire qu'on peut tellement les cumuler que nous sommes chacun très différents et que on peut en lister beaucoup d'autres. Hein, dans toutes les personnes que vous croisez, dans toutes les personnes que vous avez autour de vous, vous allez pouvoir systématiquement voir tous ces éléments là. Et puis il y a des personnes hein, qui sont attachées finalement à leur place dans la société, donc par exemple comment est-ce que le monde est, comment je m'intègre dans ce monde, et ben ça va venir plutôt en disant bah oui j'ai un métier qui est prestigieux, le prestige de telle profession etc, c'est important pour moi et je dois pas perdre ce prestige là. Donc tout ce qu'ils vont faire en entrepreneuriat potentiellement est lié à ce prestige, à cette position là ou tout ce qu'ils ne vont pas faire d'ailleurs hein, ne pas s'associer avec des personnes qui par exemple ne pourraient gêner par exemple leur activité ou en tout cas leur activité prestigieuse hein, voilà. Donc on a plein de cas vraiment particuliers et en fait ce qui est important de savoir c'est que chaque personne, nous avons tous un mode de fonctionnement profond et très ancré, c'est-à-dire qu'en fait tu as un mode de fonctionnement qui vient de ton expérience, ton éducation, d'événements traumatisants, plus ou moins traumatisants, attention quand je dis traumatisant c'est pas un truc catastrophique etc où t'as failli perdre la vie ou tout, un trauma hein, ça peut être un truc qui t'a chamboulé un jour, qui t'a apporté de la tristesse, mais ça peut être aussi un truc qui finalement a été une sorte de déclic, un fort alléluia. Enfin voilà, en fait quelque chose qui te laisse une trace en toi d'un événement qui t'a amené en fait à conforter ta vision du monde, à conforter ce que tu savais ou à changer de vision et en tout cas à te comporter d'une certaine manière. Et dedans, il y a aussi la culture. L'autre jour, j'avais une discussion qui était intéressante sur pourquoi est-ce qu'en France, on parle jamais de l'argent qu'on gagne. Pourquoi est-ce que dans d'autres pays on en parle plus facilement? Et en fait, ça vient, alors là j'en avais parlé il y a très longtemps, j'avais parlé des 7 péchés capitaux. Et en fait, il y a l'avarice dans les 7 péchés capitaux. Nous sommes dans une culture catholique, et la culture catholique en fait a placé l'argent et l'accumulation de richesses comme étant un péché. Et culturellement, même si moi je suis pas du tout croyant, on sait que culturellement on est très imprégné par tout ça, et qu'en fait la société française est très imprégnée par tout ça. C'est très intéressant parce que en fait il y a, quand on regarde les protestants, et en plus, alors moi c'est assez drôle parce que dans ma famille qui vient des Cévennes, j'ai un parti protestante, et où je vois un peu la différence. Alors il y a personne de religieux, hein. Alors, en plus, alors je le dis tellement, c'est que l'histoire de la religion dans la famille, dans une partie de la famille, c'est tellement compliqué que c'est un truc auquel je ne crois pas du tout. Mais par contre, on se rend compte que par exemple les protestants dans le monde, il y a des pays protestants, l'Allemagne, Pays-Bas, et puis qui ont émigré aussi vers les États-Unis, vers tout ça, ont apporté une culture autour de l'argent, de l'entrepreneuriat, de la création de richesses et tout, qui est totalement différente à celle de la France. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a des études qui ont été faites qui montraient qu'à une époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois, les pays protestants, en fait, c'était une culture vraiment minoritaire, vraiment très minoritaire en pourcentage, hein, alors je dirais une bêtise, mais on va dire que ça représente 10 ou 13% des habitants du monde, mais qu'en richesse créée, genre PIB et tout, ça représentait peut-être 40 ou 45%. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils avaient une relation à l'argent, à l'accumulation de richesses qui était totalement différente, donc à l'entrepreneuriat qui était totalement différent. Et ça, c'est très culturel en fait. C'est-à-dire que un enfant qui est né aux Pays-Bas, un enfant qui est né en France, la relation à l'argent qu'il a est différente, surtout, enfin, par ses relations autour, par les pensées qu'il peut avoir, par les gens, comment ils pensent autour de lui et tout. Et en fait, toutes ces pensées se sont mises en place et en fait, elles nous aident à un moment donné pour nous positionner. Comment je me sécurise face à mes peurs? Quelles sont mes peurs? Comment je me sécurise face à mes peurs? Ce que j'espère? Donc, quelles sont mes aspirations? Pourquoi j'ai fait des choses? Parce que j'espère des choses. Comment est le monde? Donc, comment je vais m'intégrer dans ce monde? Comment je peux vivre de tout ça? Comment moi je peux m'intégrer? Et quels sont les éléments qui me permettent d'en vivre? Pour certains, je le répète, ça va être d'avoir de l'argent justement pour s'intégrer dans ce monde parce qu'ils pensent que, ou ils ont intégré en tout cas, que l'intégration dans le monde vient de sa capacité à acheter des choses, acheter des produits et tout. Et c'est, il suffit de regarder certaines marques, hein, si vous achetez une marque comme, si on regarde le prestige qu'il y a autour de ça, des produits Apple, il y a plein de gens qui disent ouais mais Apple vous êtes des veaux, vous dépensez de l'argent pour rien, etc. et tout. Alors moi je le dis, hein, je suis en Apple à full, et je pense que mon premier produit Apple que j'ai acheté, effectivement il y avait un certain prestige à me dire ouais putain j'ai un Mac et tout, ça ressemble pas à un PC vulgaire, j'ai un beau Mac, il était blanc et tout, un Mac portable à l'époque, il est plus beau, il est plus joli, il est plus et tout, moi je suis un peu différent, enfin voilà, et le feeling différent d'Apple il est dedans. Et je pense que ce qui est le cas sur certains modèles d'iPhone, ceux qui achètent un iPhone Max par exemple, ou ceux qui se baladent dans la rue pour faire des vidéos avec leurs nouvelles lunettes, la Apple Vision, alors qu'on sait que ça sert à rien, que c'est vraiment du pipeau, sont dans cette relation là en fait, dans ce Apple. Il faut se rappeler quand même que chez Apple ils ont des marchés, des gens qui viennent du luxe, Burberry et compagnie, parce qu'ils savent en fait que c'est de la tech luxe en fait. Alors ce qui est très drôle en plus là-dedans, c'est que il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais là je vous parle sur un Mac qui date de 2011. J'ai un téléphone qui a 3-4 ans et mon ancien téléphone j'avais gardé, qui est un iPhone j'avais gardé 6 ans. Donc mon investissement, si je regarde l'argent investi par rapport finalement à la durée de vie des produits, est extrêmement longue. Donc le luxe, ça dure aussi. Et vous savez qu'il y a des produits de luxe qui ont une telle durée de vie qu'on peut les revendre, etc. C'est ce qui est très marrant. Mais dans la vision du monde qu'on peut avoir du luxe, de pourquoi j'achète ce produit, comment je fais, etc., c'est des relations totalement différentes. Et ces marques-là ont en fait une vision du monde. Alors par leurs dirigeants, elles ont une vision du monde, elles ont une vision de comment les gens qui sont leurs clients vont se placer dans le monde, etc., qu'est-ce qu'on leur propose, etc. Et comment ces gens aussi vont se sécuriser face finalement à leurs peurs. Et leur peur, par exemple, c'est d'être isolé. Alors je pense que tout le monde a la peur d'être isolé. Si vous avez lu Sapiens, vous le savez un petit peu. Nous sommes des êtres, par principe, on était peut-être les plus faibles. Alors je dis pas les plus faibles du monde, mais en fait on était quand même bouffable par quasiment n'importe quel animal dans le ou par plein de gens, par plein d'autres animaux dans le monde, hein, quand on était préhistorique et tout. Et pour autant, on s'est mis à dominer le monde entier parce qu'on était capable de s'organiser, d'être en groupe. Mais le fait d'être en groupe fait que si on sort du groupe, en fait, on est isolé et que notre plus grande peur, c'est de retrouver, d'être totalement dans l'isolement. Même si, et c'est rare que là, c'est là où il y a un truc qui est drôle, c'est que on a quand même des modes de fonctionnement où on a besoin aussi, pour certains d'entre nous en tout cas, d'être isolé ou d'être plus avec les gens. Et là, j'en parle de l'introversion et l'extraversion. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque chose que tu vas faire va être liée à toutes ces pensées. Et en fait, tout ça va se renforcer par ce que tu fais. Par exemple, j'ai peur de manquer d'argent, je veux développer mon activité, mais je me demande si ça va marcher. Donc, comme j'ai peur de ne pas gagner d'argent avec ma nouvelle activité parce que j'ai des questions, bah, ce stress m'amène à me sécuriser sur ce que je gagne maintenant, mais va aussi me dire, bah, c'est un petit peu compliqué de me lancer dans un projet qui m'amène pas de l'argent. Et donc, je vais me concentrer finalement sur ce point-là de dire, non, je dois garder mon boulot, je peux pas aller dans là-dedans, parce que je vais pas gagner d'argent, parce que je vais tout perdre et tout. Et donc, finalement, je vais chercher toutes les manières d'un côté, de garder suffisamment d'argent, et d'autre, le projet que je vais lancer, systématiquement, je vais aller sur de la monétisation, me dire comment je peux gagner de l'argent, parce que ce qui est important pour moi, c'est de calmer ma peur de manquer d'argent. Voilà, c'est vraiment le truc. En disant, ouais, mais si je me lance, tu te rends pas compte, je vais jamais pouvoir vivre avec ça. Voilà, donc ce sont des fonctionnements qui vont se renforcer. Et en fait, ce mode de fonctionnement va se renforcer encore plus. J'ai envie de dire, cette pensée va se renforcer encore plus par ton mode de fonctionnement, qui sont l'introversion et l'extraversion, qui viennent vraiment pimenter les choses. Et là, ça devient encore plus intéressant. Si tu es introverti, tu es souvent dans un dialogue interne. Tu penses avant de parler, tu es souvent timide, tu as besoin de solitude, de temps à toi, de peu de relations. Ce que je disais dans une vidéo que j'ai faite cette semaine, faisons partie, parce que moi je suis introverti, on fait partie de ces personnes qui se parlent toutes seules et qui adorent parler toutes seules à un micro ou à une caméra, et donc qui sont très très bien faites pour la création de contenu, isolées dans leur coin et tout. Mais en fait, ça a aussi un pendant, c'est-à-dire que finalement, comme tu as peu de relations avec d'autres personnes, tu vas investir beaucoup de choses dans ces relations. En fait, t'en espères beaucoup des autres. Il y a cette espèce de décalage qui peut se faire aussi, en disant, oui, mais moi, ces personnes-là, j'aimerais bien être ami, je fais beaucoup de choses pour avoir des relations avec ces personnes-là, et puis la personne en face, elle me renvoie pas tout à fait ce que j'attends ou j'espère. Et en fait, on a une espèce de décalage qui se fait beaucoup. Alors, combien de fois j'étais déçu par ce type de truc, et en me disant, comment j'arrive finalement à nouer des relations? Et en fait, quand tu es entrepreneur, il se peut que les seules relations que tu aies quand tu es introverti, que ça soit avec tes clients, en fait. Alors, si t'as pas de clients, et que t'es introverti, t'as vraiment un problème, parce que ta place dans le monde peut dépendre, en fait, de dire, oui, mais si je vends rien, que j'ai pas de clients, et que, en fait, la seule relation que j'avais avec le monde, c'était finalement mes clients, finalement, t'as pas de place dans le monde. Donc, ça pose problème, quand même, cette histoire-là. Et en fait, tu peux être amené aussi à dire, oui, mais il faut absolument que j'ai des clients. Donc, ce que tu vends, à qui, combien, comment tu le fais, etc., pour te placer dans le monde, ça peut être ça va être vraiment teinté par cette pensée, ce mode de fonctionnement introverti, qui en soi il est pas mauvais, et je dis même c'est une qualité, comme l'extraversion est une qualité. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si tu ne vends pas, tu ne vois rien? Techniquement non, mais si, sans interrelation, en fait, tu vas te dire, oui, mais si je vends pas, je vois rien, ça génère des peurs et tout. Et tu comprends bien que là, on va retrouver, en fait, avec le mélange, si t'es en plus, t'as peur de l'argent, t'as peur de manquer d'argent, t'as besoin d'argent, etc. Tu peux te retrouver dans un système où tu peux tourner les choses dans ta tête très longtemps en disant, alors attends, je voudrais proposer ça et tout, est-ce que les gens vont l'apprécier, mais si je fais ça, ils vont pas m'apprécier et tout. Donc ils vont jamais m'acheter ça, j'aurai jamais d'argent. Et tu comprends qu'à ce moment-là, en fait, ça tourne dans ta tête. Et comme tu es introverti, tu as une tendance, en fait, à garder ça pour toi, être dans ton dialogue interne et pas en parler autour de toi. C'est là, en fait, où ces pensées viennent renforcer ton comportement, où tu vas finir par t'enfermer dans une pensée que finalement tu ne peux jamais rien proposer, que tu peux jamais devenir même entrepreneur, potentiellement, parce que pourquoi quelqu'un t'achèterait ça à ce prix-là? Qu'est-ce qui va se passer s'il l'achète pas? Si personne n'achète, t'es rejeté. Si quelqu'un n'est pas content, tu vas être rejeté, et ça correspond, tu vois, à tout un tas de fonctionnements et de peurs que tu peux avoir. Et là, tu comprends que ça, c'est compliqué et qu'il faut quelqu'un, je pense, à un moment donné, qui t'aide aussi à sortir de ça. Et souvent, les gens qui vont t'aider à sortir de ça, c'est des gens avec lesquels tu vas pouvoir discuter. L'extraverti, lui, il est pas du tout dans le système là, parce que lui, en fait, il a besoin des autres pour échanger. Donc, si tu es extraverti, tu le sais, ton énergie, elle vient de l'échange avec les autres, tu te nourris des contacts avec les autres, tu es souvent à l'aise pour croiser beaucoup de monde, tu parles facilement, etc. Tu te nourris de tout ça. Et en fait, quand t'es entrepreneur, cet échange avec les gens sera super naturel, finalement, parce que t'as même pas besoin de leur vendre quelque chose, ou de leur proposer quelque chose, ou de leur proposer tes services, même gratuitement ou quoi que ce soit, pour nouer des relations, ou en tout cas pour penser que t'as besoin de proposer quelque chose qui soit tes services, de donner à mon, enfin, dans, à la cour d'école, par exemple. Ça pourrait te dire, l'extraverti va faire des blagues pour se faire une place. L'introverti, comme il pense que personne ne veut s'intéresser à lui, il va lui acheter une barre de chocolat, il va lui amener une petite barre de chocolat. Je suis très caricatural, mais en fait, pas tant que ça. Finalement, l'extraverti, bah, lui, il va aller dans des trucs à droite à gauche, il va avoir plein d'expériences, croiser plein de gens, probablement beaucoup plus d'opportunités que l'introverti, parce que comme l'introverti discute pas avec grand monde, et ben il a pas, on lui propose pas certaines opportunités parce qu'il les croise pas, ces gens-là, alors que l'extraverti croise plein de gens, dit ah tiens, j'ai vu telle personne qui a ça, qui fait ça et tout, c'est génial, tu devrais regarder ce truc là et tout. Et donc finalement il a peut-être plein d'opportunités, et puis bah finalement sa place dans le monde est pas vraiment conditionnée par le fait qu'il ait vendu un produit ou pas, parce que finalement c'est pas trop sa place dans le monde par ça. Sauf que bah finalement s'il vend rien et qu'il gagne pas d'argent, ça lui permettait pas d'aller vivre certaines expériences qui le nourrissent en fait. Et donc l'extraverti va aussi avoir ces problématiques là. C'est pour ça que je dis que en fait c'est comme s'il y avait un espèce de gros maillage. Et qu'en fait, selon toutes les pensées que tu as, tout ça va se mélanger et créer ta personnalité et ton mode de fonctionnement. Et en fait, c'est là où, je le répète, nous sommes tous très différents et aucun profil n'est plus apte qu'un autre. Dans l'inconscient, l'extraverti apparaît plus comme le vendeur type. Là, c'est, je dis le loup de Wall Street, quoi. C'est, je vais vous vendre ce stylo, je vais dans la rue, je parle à n'importe qui, je te vends un stylo et tout, je repars et tout, et je fais la fête, etc. Mais en fait, je pense que l'introverti a une force totalement différente. On parle souvent d'ailleurs qu'il a un charisme probablement, alors je dis pas plus important, mais je parle en tout cas différent. Peut-être même qu'il peut avoir une force d'attractivité, d'attirer des gens à lui d'une certaine manière, que l'extraverti va plus aller chercher les gens, alors que l'introverti va peut-être plutôt chercher les attirer. Pour ça que je pense d'ailleurs que l'introverti est très très bon dans la création de contenu, que l'extraverti, par exemple, dans un micro tout seul, ça lui plaît pas, mais que il pourrait le faire, par exemple, dans des formats interview, etc. Je pense qu'il y a, des manières de faire qui sont différentes, en tout cas dans le mode de fonctionnement. Mais ce qui est important pour toi, c'est de comprendre ce mode de fonctionnement. De quoi tu as peur, de quoi tu as besoin, quelle est ta vision du monde. Vision du monde, hein, c'est est-ce que le monde est gentil, méchant, est-ce qu'il est juste, injuste, enfin des choses comme ça, quoi, tu vois, qui sont parfois très manichéennes, mais en fait, qui sont une vision. C'est-à-dire que là, on peut regarder sur la PNL, le monde est le monde, et en fait, le monde que tu vois est le monde que tu te représentes. Et comme tes pensées, avec tes pensées, en fait, tu vois le monde, et ben tu es renforcé dans ta vision du monde. Donc tu peux avoir deux personnes, tu peux avoir une personne qui pense que le monde est une opportunité, et puis l'autre personne qui pense que le monde est méchant et que pourtant c'est le même monde. Bah oui, c'est logique. C'est en fait, nous avons un monde, le monde qui existe autour de nous n'est que le monde que nous l'imaginons et tel que nous le vivons. Et comment tu fonctionnes et donc aussi le rôle de l'argent pour toi vient renforcer ta vision du monde, vient renforcer aussi tes peurs, tes besoins, et une mauvaise expérience dans un domaine va peut-être renforcer une peur et comprends comment tout ça est lié. Donc, le truc, c'est de vraiment se poser ces questions-là, d'avoir en toi ces questions qui sont importantes, tes peurs, qu'est-ce qui te fait vraiment peur. Attention, hein, j'ai parlé par exemple je parle du rôle de l'argent pour toi, ça c'est un élément que tu dois te poser, mais tu peux avoir des peurs autour de l'argent, mais tu peux avoir des peurs de paraître pour un con, tu vois, pour dire si je crée du contenu sur tel sujet, on va penser que je suis incapable si je fais une erreur. Voilà, ça c'est souvent des petites peurs que je dois calmer chez les gens, tu vois, en coaching, ça m'arrive régulièrement de calmer ce genre de peur. Je suis incompétent pour oser parler là-dessus, mais je vais être jugé par les gens, par mes pairs, alors qu'en fait, souvent dans la création de contenu, et à 100% dans la création de contenu, quand tu commences, tu prends l'esprit du débutant, moi c'est ce que je conseille, tu t'adresses pas à des gens qui sont des pairs, c'est-à-dire qui sont, j'ai envie de dire, si tu es coach en éducation canine, généralement, ton podcast ne va pas s'adresser, tu veux faire des podcasts ou des vidéos, tu vas pas t'adresser à des éducateurs canins pour leur expliquer leur métier, ni à des experts de l'éducation canine, tu vas t'adresser à des gens qui ont leur premier chien et qui doivent comprendre comment leur chien fonctionne. Donc, ils en savent moins que toi, en fait. Ils sont dans l'apprentissage. Mais souvent, en fait, tu peux penser que un expert ou je sais pas quoi va venir et va dire que tu racontes une connerie. Alors qu'en fait, il va peut-être jamais voir ton contenu. Ou alors que le jour où il va venir voir ton contenu, il va dire eh, c'est bien ce que tu racontes, en fait. Et là, tu vas être super surpris, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, un jour, j'ai eu quelqu'un qui est pro en course à pied, en trail, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, c'est génial ce que tu fais. Il me connaît. Bah ouais, il me connaissait. Comme quoi, tu vois, il y a des trucs qui sont très surprenants. Mais parce que pour moi, dans ma vision du monde, c'était pas possible que ces personnes-là s'intéressent à ce que je pouvais faire. Donc, tu vois, c'est vraiment ce mode de fonctionnement-là qui est vraiment très important, que tu dois évaluer, en fait, hein, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, de quoi tu as peur, quelle est ta vision du monde, pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire, pourquoi tu veux être entrepreneur, pourquoi tu veux créer du contenu déjà, pourquoi tu veux être entrepreneur, pourquoi tu veux en gagner de l'argent ou pas, est-ce que c'est important pour toi de monétiser ton podcast, monétiser ta chaîne YouTube, est-ce que c'est important pour toi de vendre des e-books, vendre du coaching, qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que ça va te permettre aussi toi de vivre le monde tel que tu as envie de le vivre. Donc tu vois, ça c'est des questions qui sont super importantes à te poser et de t'en faire une ligne de conduite en fait, un guide qui va t'aider dans tes décisions, mais qui peut être aussi un avertissement. Quand tu peux avoir un écueil potentiel qui se présente face à toi, tu peux te dire, ouah, alors attends, ce truc-là qui est en train d'arriver, par rapport à ma vision du monde, par rapport à mes peurs, à mes besoins, à ce que je vois de l'argent et tout, comment je peux l'analyser en fait? Est-ce que vraiment ce truc-là, je dois pas m'en méfier, non pas parce qu'il arrive, mais de ma vision que moi j'ai de ce qui arrive en fait. Et c'est là où je reviens par exemple en disant, bah quand t'es entrepreneur, tu vois, moi pendant très longtemps je voulais pas lancer de formation en ligne parce que j'avais cette peur de me dire, ouais punaise, alors déjà un, je vais pas le vendre, deux, je vais pas être pour un con si je dis une connerie dedans, trois, ça va pas être terrible, quatre, il y a des gens qui font tellement des trucs super bien que moi, pourquoi je le ferais? Et donc à un moment, ce truc renforcé par mon introversion faisait que je n'avançais jamais. Je le dis, hein, j'ai mis 18 mois ou presque 2 ans à lancer ma première formation. Et comme en fait, j'osais pas la vendre, j'osais pas en parler. Donc, j'ai même des gens qui m'ont dit, mais je savais même pas que t'as mis en ligne une formation. Bah ouais, bah voilà. Pourquoi? Parce que dans ma vision du monde, dans mes peurs, dans ma relation à l'argent, etc., je dis, ouais, moi je partage, c'est important. Puis je la mettais qu'à 30 euros, comme ça j'ai plein de gens qui en profiteront et tout. Bah, dans les faits, cette vision du monde, cette vision de l'argent, cette vision du fonctionnement n'a pas fonctionné. Et donc, c'est à partir de là aussi que j'ai dit, il faut quand même, Bertrand, que tu évolues sacrément et que tu ailles te questionner, que tu ailles chercher profondément avec différentes techniques. Mais déjà, les questions que je t'ai posées tout à l'heure, de quoi tu as peur, de quoi tu as besoin, quelle est ta vision du monde, comment tu fonctionnes et quel est le rôle de l'argent pour toi. Si déjà tu arrives à répondre, à mon avis, à ces 5 questions, je pense que déjà tu as une très bonne vision du type de choses que tu peux faire, de comment tu peux les faire, de quelles sont les aspirations que tu peux avoir et quels sont les garde-fous que tu peux avoir. Et aussi finalement des points sur lesquels tu dois peut-être évoluer, des points sur lesquels tu dois peut-être te méfier et peut-être aussi des gens dont tu as besoin de t'entourer pour t'aider à passer certains caps ou en tout cas pour faire le balancier. Moi, je dis toujours qu'un introverti aurait besoin d'un extraverti pour l'aider justement à vendre et à les communiquer plus, mais qu'un extraverti aurait vraiment besoin d'avoir un introverti à côté de lui pour l'aider à réfléchir avant de parler. Et voilà, c'est ma vision du monde à moi. C'est comme ça que je le vois. Alors, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses en commentaire. Tu sais que tu peux laisser des commentaires sur Spotify, sur chaque épisode, sur Apple Podcast globalement. Et je te remercie beaucoup parce que ça va aider le podcast à remonter dans les classements. Parce qu'en plus, à force de changer de catégorie, je pense qu'Apple ne sait plus trop où me placer. Moi, je me suis placé dans une catégorie et en fait, pour remonter un petit peu, on va voir. J'ai besoin de quelques notes, donc je te remercie d'avance pour ton aide. Que tu sois sur un... Alors, si t'es sur iPhone, Apple Podcast, c'est facile. Si t'es sur un truc autre, voilà, ma vision du monde Apple, Spotify, c'est bien aussi parce que les notes sur Spotify et les commentaires, ça aide aussi. Et tu vois, ça vient renforcer un élément de me dire, mais est-ce que finalement, ce que je viens de raconter sert vraiment à quelque chose ou pas? Donc, dis-moi si ça sert à quelque chose ou pas. Et puis je te mets en description de l'épisode les liens pour retrouver ce que je fais. Parce que je suis à présent à différents endroits, mais tu vas retrouver les liens de ce que je fais dans les notes de l'épisode. Je te remercie en tout cas pour le temps que tu as passé avec moi. J'espère que tu as passé un bon temps, hein, tu vois, là aussi, ça fait partie de mes peurs. J'espère que ça va t'aider. J'espère en tout cas que ça amène des réflexions chez toi. Si tu veux de l'aide sur ces questions-là, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao mes champions et mes championnes.